Takashi Nagai. Au lendemain du terrible tremblement de terre et du tsunami qui ont ravagé le Japon, le 11 mars 2011, de nombreuses personnes ont déployé des efforts héroïques pour porter secours aux victimes de la tragédie et pour enrayer le risque de contamination nucléaire provoqué par la centrale de Fukushima. Le père Yasutaka Muramatsu, salésien japonais, a notamment témoigné. Les jeunes, chrétiens ou non chrétiens, dit-il, se sont mobilisés. Ils voudraient se rendre immédiatement dans les zones touchées pour mettre leur énergie et leur enthousiasme au service des victimes, pour aider, offrir un sourire et redonner un peu d'espoir. Il est vraiment émouvant de voir combien ils brûlent d'amour envers leurs prochains. C'est une leçon pour nous, tous éducateurs. Dans le même pays, un dévouement remarquable s'était également manifesté en 1945 après l'explosion de la bombe atomique à Nagasaki, et tout spécialement de la part du docteur Takashi Nagai. Takashi Nagai est né en 1908 à Isumo, près d'Hiroshima, dans une famille de religion shintoïste. En 1928, il entre à la faculté de médecine de Nagasaki. « Dès mes études secondaires, écrira-t-il, j'étais devenu prisonnier du matérialisme. À peine entré en faculté de médecine, on me fit disséquer des cadavres, la merveilleuse structure de l'ensemble du corps, l'organisation minutieuse de ses moindres parties, tout cela causait mon admiration. Mais ce que je maniais ainsi, ce n'était jamais que pure matière. L'âme, un fantôme inventé par des imposteurs pour tromper les gens simples. Le dernier regard d'une mère. Un jour de 1930, un télégramme lui parvient de son père. « Viens à la maison. » Il part en toute hâte. À son arrivée, il apprend avec stupeur que sa mère a eu une attaque et qu'elle ne peut plus parler. Il s'assied à côté d'elle et lit dans son regard un dernier au revoir. Cette expérience de la mort va changer sa vie. « Par ce dernier regard pénétrant, dira-t-il, ma mère démolit le cadre idéologique que j'avais construit. Cette femme qui m'avait mise au monde et élevée, cette femme qui ne s'était jamais donnée un moment de répit dans son amour pour moi, au dernier instant de sa vie, me parla très clairement. Son regard me disait que l'esprit humain continue à vivre après la mort. Tout cela venait comme une intuition qui avait la saveur de la vérité. Takashi commence alors la lecture des pensées de Pascal, grand savant et penseur français du XVIIe siècle. L'âme, l'éternité, Dieu, notre grand prédécesseur, le physicien Pascal, avait donc admis sérieusement ces choses, se dit-il. Ce sage incomparable y croyait vraiment. Que devait être cette foi catholique pour que le savant Pascal ait pu l'accepter sans contredire sa science? Pascal explique que nous rencontrons Dieu par la foi et dans la prière. Même si vous ne pouvez encore croire, dit-il, ne négligez pas la prière ni l'assistance à la messe. Je suis toujours prêt à vérifier une hypothèse au laboratoire, pense Nagai. Pourquoi ne pas essayer cette prière sur laquelle Pascal insiste tant? Il décide de chercher une famille catholique qui accepte de le prendre comme pensionnaire pendant ses études. Cela lui donnera l'occasion de connaître le catholicisme et la prière chrétienne. Il est reçu dans la famille Moriyama. Monsieur Moriyama, marchand de bestiaux, descend d'une de ces vieilles lignées chrétiennes qui, à travers 2 siècles et demi de persécution, surent conserver la foi apportée au Japon par saint François Xavier. La pureté de cette foi chrétienne étonne le jeune Nagai. D'humbles fermiers lui enseignent par leur exemple ce qu'avait cru Pascal, le grand savant. En mars 1932, une sévère otite rend Takashi sourd de l'oreille droite et bouleverse par le fait même ses projets d'avenir. Ne pouvant plus se servir du stéthoscope, il doit renoncer à la médecine ordinaire. Il oriente alors ses études vers la médecine radiologique qui débute au Japon. Cette science met à la disposition des médecins de grandes possibilités pour déceler les maladies. Monsieur et Madame Moriyama ont une fille, Midori, institutrice dans une autre ville. Tous les trois prient pour la conversion de Takashi, pensant que peut-être Dieu le leur a envoyé dans ce but. Le 25 décembre 1932, Midori est chez ses parents pour la fête de Noël. « Docteur, demande Monsieur Moriyama à Takashi, pourquoi ne venez-vous pas avec nous à la messe de minuit ?»«
Mais je ne suis pas chrétien. » »«
Peu importe. Les bergers et les rois mages, qui vinrent à l'étable, ne l'étaient pas non plus. Pourtant, quand ils virent l'enfant, ils crurent. Vous ne pourrez jamais croire si vous ne venez pas prier à l'église. » Après quelques instants, Nagai se surprend lui-même à répondre. « Oui, j'aimerais vous accompagner ce soir. » 5000 chrétiens remplissent la cathédrale, chantant tous le même credo en latin. Nagai est fortement impressionné et encouragé dans sa réflexion sur la religion catholique, sans cependant se laisser convaincre. Une nuit, M. Moriyama vient réveiller Takashi. Midori se tord de douleur sur sa couche. Très vite, le jeune médecin diagnostique une appendicite aiguë. Il entend M. Moriyama murmurer « C'est la volonté de Dieu. Qui sait quel bien en sortira ?» Malgré la neige abondante, Takashi court à l'école voisine pour téléphoner à l'hôpital. « Allô, ici Nagai. Qui est aux urgences ce soir ?» « Pourriez-vous l'appeler, s'il vous plaît ?» Un ami vient répondre et Nagai lui demande s'il peut pratiquer immédiatement une appendicectomie. Sur sa réponse affirmative, Takashi retourne chercher Midori. Cela prendrait trop de temps d'appeler un taxi. Avec toute cette neige, nous ne pouvons pas prendre le risque d'attendre. Et s'adressant à M. Moriyama, « Si vous voulez bien porter la lanterne devant, je peux facilement porter Midori. » Pendant le trajet, Takashi se rend compte que le cœur de Midori s'emballe et qu'elle est brûlante de fièvre. Sa vie est en danger. Il presse le pas. Enfin, voici l'hôpital. La salle d'opération est prête. 7 minutes après, tout est terminé. Midori est sauvée. En reconnaissance, celle-ci va tout mettre en œuvre pour obtenir la conversion de son sauveteur. Le petit catéchisme de Midori. L'année suivante, Takashi est mobilisé dans l'armée japonaise et part combattre en Mandchourie. Dans un colis que Midori lui envoie, se trouve un petit catéchisme qu'il lit avec intérêt. Au bout d'un an, il revient au pays, presque désespéré par la prise de conscience des désordres de sa vie et le souvenir des affreux spectacles de la guerre. Il se rend à la cathédrale de Nagasaki et y rencontre un prêtre japonais qui le reçoit longuement. Encouragé, Takashi reprend son travail de radiologie et se met à étudier la Bible, la liturgie, la prière des catholiques. Mais les exigences morales de l'Évangile et la nécessité de se séparer des attaches religieuses shintoïstes de sa famille font encore obstacle à sa conversion. Un jour, au milieu de ses doutes, il reprend les pensées de Pascal et tombe sur une phrase qui attire son attention. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Soudain, tout se clarifie pour lui. Il prend sa décision et demande le baptême qu'il recevra en juin 1934. Il choisit le nom de Paul en souvenir de saint Paul Miki, martyr japonais crucifié à Nagasaki en 1597. 2 mois plus tard, il épouse Midori. Auparavant, il a voulu faire connaître à celle-ci les risques importants auxquels l'expose son métier. En effet, les radiologues de l'époque n'avaient pas les moyens de se protéger suffisamment contre les rayons X. Midori a compris le danger pour la vie de Takashi, mais elle entre dans ses vues et partage son idéal de pionnier pour sauver des vies humaines. Nagai va devenir plus qu'un médecin, un apôtre de la charité envers le prochain. Il écrit « La tâche du médecin est de souffrir et de se réjouir avec ses patients, de s'ingénier à diminuer les souffrances comme si elles étaient les siennes mêmes. Il faut sympathiser avec leur douleur. Toutefois, en fin de compte, ce n'est pas le médecin qui guérit le malade, mais le bon plaisir de Dieu. Une fois que l'on a compris cela, le diagnostic médical engendre la prière. » À nouveau mobilisé, de juin 1937 à mars 1940, il participe comme médecin à la guerre sino-japonaise. Son dévouement à l'égard de tous, militaires japonais ou chinois, femmes, enfants et vieillards, impitoyablement entraînés dans d'horribles tueries, a pris une extension héroïque. À son retour au Japon, les demandes de radiographie se multiplient. Bientôt, Takashi remarque sur ses mains des traces inquiétantes. De plus, il se sent souvent épuisé. Parfois, au moment d'épuisement, il ferme sa porte et va s'asseoir devant la statue de Marie dans son bureau. La récitation du chapelet lui rend peu à peu la paix intérieure. 3 ans de vie. Un collègue de Takashi le persuade de passer lui-même à la radiographie. Un matin de juin 1945, il s'exécute. « Préparez l'appareil, dit-il à son aide. Mais docteur, aucun patient n'est encore là. » « Le patient, le voici, répond Nagai en montrant sa poitrine. « Et le médecin, le voilà. » Et il désigne ses yeux. À la vue de la radiographie, Nagai a le souffle coupé. Sur la partie gauche figure une large plaque noire, hypertrophie de la rate. Il diagnostique une leucémie et murmure « Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile. Protégez Midori et nos 2 enfants, qu'il me soit fait selon votre volonté. » Le docteur Kajura, chef du département de médecine interne, confirme son analyse. Leucémie chronique, durée de vie 3 ans. Il a usé sa vie pour sauver des malades sans nombre que personne d'autre n'aurait pu radiographier. Rentré chez lui, Takashi révèle tout à Midori. Celle-ci s'agenouille devant le crucifix que sa famille avait gardé pendant les 2 siècles et demi de persécution. Elle prie longuement, secouée de sanglots, jusqu'à ce que la paix revienne dans son âme. Nagai prie lui aussi. Le remords l'envahit à la pensée qu'il s'est toujours jeté tête baissée dans son travail, sans penser suffisamment à son épouse. Mais Midori se montre à la hauteur de la situation. Le lendemain, c'est un homme nouveau qui repart à son travail. L'acceptation totale de la tragédie de la part de Midori et son refus d'entendre parler de négligence l'ont rempli de force. 9 août 1945. 11 heures et 2 minutes. Un éclair aveuglant. une bombe atomique vient d'exploser à Urakami, le quartier nord de Nagasaki. Dans la guerre qui les oppose au Japon, les dirigeants des États-Unis ont eu recours à une nouvelle arme terrifiante, la bombe A. Une première bombe a été lâchée sur Hiroshima, une deuxième dévaste Nagasaki. Température 9000 degrés, 72 000 morts, 100 000 blessés. À l'université de médecine, située à 700 mètres du centre de l'explosion, Nagai, qui classe des films radiographiques, est projeté sur le plancher, criblé d'éclats de verre. Le sang coule abondamment de sa tempe droite. Bientôt, un flot ininterrompu de blessés, des silhouettes sanglantes, les vêtements arrachés, les cheveux brûlés, accourent à la porte de l'hôpital. Une vision d'enfer. Son chapelet. L'incendie s'approche de l'hôpital. On évacue les patients vers le sommet d'une colline voisine. Nagai s'y dépense jusqu'à la limite de ses forces. À 16h, l'incendie s'attaque au département de radiologie. 13 années de recherche, les instruments, toute la précieuse documentation, tout part en fumée. Le 10 août, se passe à soigner les blessés. Le 11, le travail se fait un peu moins pressant et Takashi part à la recherche de Midori, restée à la maison alors que les enfants et leur grand-mère sont en sûreté dans la montagne depuis le 7 août. Il retrouve difficilement l'emplacement de son habitation dans une zone de tuiles et de cendres. Soudain, il découvre les restes carbonisés de son épouse. À genoux, il prie et pleure, puis ramasse les os dans un récipient. Quelque chose brille faiblement dans la poudre des os de la main droite, son chapelet. Il incline la tête. « Mon Dieu, dit-il, je vous remercie de lui avoir permis de mourir en priant. Marie, mère des douleurs, merci de l'avoir accompagnée à l'heure de la mort. Jésus, tu as porté la lourde croix jusqu'à y être crucifié. Maintenant, tu viens de répandre une lumière de paix sur le mystère de la souffrance et de la mort, celle de Midori et la mienne. Étrange destinée. J'avais tant cru que ce serait Midori qui me conduirait au tombeau. Maintenant, ses pauvres restes reposent dans mes bras. Sa voix semble murmurer « Pardonne, pardonne !» Le pardon de Nagai sera total. Il incitera les chrétiens découragés par la perte de leur famille à s'abandonner à la providence de Dieu, qui tire toujours le bien du mal. Le 15 août 1945, à midi, la radio transmet un message de l'empereur annonçant la capitulation du Japon. Au début de septembre, Nagai est mourant. Les radiations de la bombe A ont aggravé son mal. Il reçoit les derniers sacrements et dit « Je meurs content ». Puis il tombe dans un demi-coma. On lui apporte de l'eau de la grotte de Lourdes, construite non loin de là par le père Maximilien Kolb. « J'entendis, écrira-t-il, une voix qui me disait de demander au père Maximilien Kolb de prier pour moi. Je le fis, puis je m'adressai au Christ et lui dis « Seigneur, je me remets entre tes mains divines. » Le lendemain matin, Takashi est hors de danger et il attribua au père Kolb, aujourd'hui canonisé, la rémission de 6 ans que lui laissera sa maladie. Moi, je veux y vivre le premier. Tandis que les habitants craignent de revenir à Urakami, Nagai déclare « Moi, je veux y vivre le premier. » Il se bâtit un abri près de son ancienne maison, quelques tôles posées sur un restant de mur. Devant, deux pierres forment un foyer de fortune, au-dessus duquel pend un chaudron. À côté, une vieille bouteille sans colle, la réserve d'eau. Comme vêtement, un des uniformes de marin distribués par l'armée aux sinistrés. Il commence à évacuer les débris de sa maison. Il y découvre le crucifix qui appartenait à l'hôtel familial. « Tout m'a été enlevé, dit-il. Ce crucifix seul, je l'ai retrouvé. » Le 23 novembre 1945, Nagai est invité à prendre la parole lors d'une messe de requiem célébrée à côté des décombres de la cathédrale d'Urakami. L'Holocauste du Christ sur le calvaire éclaire et donne sens à l'Holocauste de Nagasaki. Au matin du 9 août, dit Takashi, une bombe atomique explosait au-dessus de notre faubourg. En un instant, 8000 chrétiens furent appelés à Dieu. À minuit ce soir-là, notre cathédrale prit soudain feu et fut consumée. À cet instant même, au palais impérial, Sa Majesté l'Empereur fit connaître sa décision. Le 15 août, l'édit impérial qui mettait fin au combat fut officiellement promulgué et le monde entier aperçut la lumière de la paix. Le 15 août est aussi la grande fête de l'Assomption de Marie. Ce n'est pas pour rien que la cathédrale d'Urakami lui était consacrée. N'y a-t-il pas un rapport profond entre l'anéantissement de cette ville chrétienne et la fin de la guerre? Nagasaki n'était-elle pas la victime choisie, l'agneau sans tache, holocauste offert sur l'autel du sacrifice, immolé pour les péchés de toutes les nations pendant la Seconde Guerre mondiale? Soyons reconnaissants de ce que Nagasaki ait été choisi pour cet holocauste. Soyons reconnaissants car à travers ce sacrifice, la paix a été donnée au monde ainsi que la liberté religieuse au Japon. Au printemps de 1947, la maladie de Takashi l'oblige à s'aliter dans sa cabane. Il lui faut abandonner sa charge de professeur, et de ce fait, il se trouve sans ressources. « Ma tête travaille encore, se dit-il. Les yeux, les oreilles, les mains et les doigts sont encore bons. » Et il se met à écrire. Pour ses enfants, encore bien jeunes, Makoto et Kayano, il rédige un recueil de conseils. « Mes chers enfants, écrira-t-il, aimez votre prochain comme vous-même. Voilà la parole que je vous laisse. C'est par elle que je commencerai cet écrit. C'est peut-être bien par elle que je conclurai, et encore par elle que je me résumerai. » Ce message, son seul exemple, aurait suffi à l'imprimer dans leur cœur. Toute l'existence de leur père a-t-elle été autre chose qu'un héroïque service du prochain, service qui le conduit aujourd'hui à la mort? Ce service, Nagai veut y consacrer jusqu'à ses dernières heures. Couché sur le dos, il écrit en tenant une planchette à dessin, comme en emploient les écoliers. Il note, « En me réveillant ce matin à 1 heure, la fièvre était tombée. Après avoir bu le café du thermos, j'ai pu écrire jusqu'à 7 heures du matin. Le travail a bien avancé. Il ne lui restera bientôt plus que la nuit pour écrire, car dès le matin, les visiteurs s'annoncent, mais il ne leur montre aucune impatience. « Cela m'ennuie, écrit-il. Mais puisqu'ils ont la gentillesse de venir ici, ne dois-je pas tâcher de verser un peu de ma joie dans leur cœur et de leur parler de notre espérance catholique? Je ne peux pas les renvoyer. » Une seule garantie. C'est dans ces conditions difficiles que Nagai écrit et publie 15 volumes en 4 ans. Quel but se propose-t-il dans ses écrits? D'abord, donner un compte-rendu fidèle de l'explosion atomique à travers son expérience exceptionnelle et sa compétence personnelle, ensuite travailler à l'établissement de la paix. Convaincu surtout qu'une paix durable ne peut se fonder que sur l'esprit d'amour qui resplendit dans la doctrine catholique, il considère comme sa vocation de propager le message chrétien. À la fin de son livre, Les cloches de Nagasaki, il écrit « Est-ce que l'humanité sera heureuse à l'âge atomique ou bien misérable ?» Cette arme a deux tranchants, cachée par Dieu dans l'univers et maintenant découverte par l'homme. Que va-t-on en faire ? Un bon usage fera progresser à grands pas la civilisation. Un mauvais détruira notre monde. La décision repose sur le libre vouloir de l'homme. Celui-ci tient son destin dans ses mains. En y songeant, on se sent pris de terreur, et pour ma part, je crois qu'un véritable esprit religieux est la seule garantie en ce domaine. À genoux dans les cendres du désert atomique, nous prions pour que cette Urakami soit la dernière victime de la bombe. La cloche sonne. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En mars 1951, l'état de santé du docteur est alarmant, sans altérer pour autant son habituelle bonne humeur. En avril, il écrit son dernier livre. À peine l'a-t-il achevé qu'il est victime d'une hémorragie cérébrale. On le transporte à l'hôpital où il perd connaissance. Revenu à lui, il dit à haute voix « Jésus, Marie, Joseph !» Puis, plus faiblement, « Je remets mon âme entre vos mains. » Bouleversée, l'infirmière donne le grand crucifix de la famille à Makoto, son fils, pour qu'il le porte à son père. Celui-ci le prend et s'écrie d'une voix étonnamment forte « Priez, s'il vous plaît, priez !» Aussitôt, c'est la fin, en ce 1er mai, début du mois de Marie. Lors des obsèques à la cathédrale d'Urakami, le maire de Nagasaki fait la lecture solennelle de 300 messages de condoléances, en commençant par celui du premier ministre. À la fin de la cérémonie, la foule se met en route pour le cimetière, à 1,5 km. La tête de la procession y parvient, alors que la majeure partie n'a pas encore quitté la cathédrale. Takashi Nagai est enterré à côté de Midori. Pour la tombe de celle-ci, il avait choisi comme épitaphe « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole », extrait de Luc au chapitre 1. Pour la sienne, il prendra aussi saint Luc au chapitre 17. « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire ». Son influence s'est étendue grâce à ses livres. Dès 1948, on les lisait partout au Japon. Ces livres, qui ont fourni une contribution remarquable à l'éducation sociale de ses concitoyens et à l'évangélisation de son pays. Demandons à la Très Sainte Vierge et à Saint Joseph, pour nous et tous ceux qui nous sont chers, une vraie conversion, un amour du prochain poussé jusqu'au sacrifice suprême et une sainte mort qui nous introduise dans le bonheur éternel du ciel. Et confions la population digne et courageuse du Japon à Notre-Dame de Nagasaki, dont la statue de bois fut miraculeusement préservée du péril nucléaire en 1945.